David Chabot qui est en studio, notre chroniqueur international. Comment ça va, mon ami? Très content de t'accueillir un peu plus tôt ce matin. Merci.
Ben oui, écoute, ça a bien marché, là, un petit peu d'accident sur de la capitale. Je vous écoutais en descendant, je me suis dit, bon, mais c'était pas si pire que ça.
Ouais. Excellent.
Doug Ford qui est en guerre contre Donald Trump, multiplie les entrevues aux États-Unis pour dénoncer les tarifs de Donald Trump. Mark Carney qui dit, si Doug Ford avait pas fait ça, on en serait venu à une entente commerciale avec les États-Unis. Trump qui dit « Il est hors de question que je rencontre Carney pour les prochains jours. » C'est un cirque.
Oui. Oui, effectivement. Puis ce matin, dans le fond, je voulais pas t'approcher ça juste avec les conséquences directes de ce que le bon vieux Doug a fait, là, parce que c'est une analyse qui est assez simple. Il fucked up. Là, on est pogné avec à ramasser son tas de sécrétion, on va dire. Mais l'humain, dans le fond, est basé sur plein de billets. Là. L'approche de la société est basée sur des billets. Okay? Ouais. Fait que là, tu as des billets comme... en fait, l'effet Dunning-Kruger. Je sais pas si tu le connais, celui-là, qui dit que moins t'en sais, plus tu penses que tu contrôles la matière. T'sais, des gens qui te parlent de science, puis la pandémie, on en a vu.
Et l'inverse est aussi vrai. Plus t'en sais, plus tu te rends compte que tu sais pas grand-chose.
Exactement. Fait que, on voit ça souvent dans la société. Fait que là, il y a ce genre de billets-là, l'autocomplaisance, où qu'on attribue nos succès à nous-mêmes. Bon, il y a plein de billets de même dans la vie. Les politiciens sont très, très biaisés, hein, on le sait. Là,
Ah oui?
Oui, pas mal. Puis tu sais, quand tu vas en politique, souvent, c'est parce que tu as besoin d'affirmer ta personnalité puis ta personne. Les vrais politiciens qui sont là pour les vraies, vraies bonnes raisons, on les compte sur les doigts de la main dans toutes
puis
les parties politiques.
Tes croyances aussi, là, tes courants de pensée, tu y vas pour ça en politique.
Oui.
Tu dis, hey, moi, là, je veux que le Québec devienne X, mais là, tu t'en vas pour cette mission-là.
Mais David Chabot, toi qui es à mes yeux un éminent psychologue, est-ce que tu n'es pas dans la vraie vie?
Non.
Est-ce qu'il y a un peu de narcissisme en politique? C'est ce que tu es en train de me dire?
Ben oui, puis oui. C'est là que je m'en allais, là, dans le sens que, tu sais, surtout quand t'es rendu au top, quand c'est toi qui mène, là, c'est toi qui es le premier ministre d'une province, par exemple, comme Doug Ford, il faut que tu démontres que tu es dans l'action. Fait que ça, c'est le biais d'action, c'est surtout de ça que je voulais te parler ce matin. Là, en ce moment, avec Trump, ça fait longtemps là, que ça vire en rond, là, parce que, en fait, ça fait pas si longtemps que ça qu'il est élu, mais, tu sais, tarif, pas tarif, négo, pas négo, Trudeau, pas Trudeau, là, c'est rendu avec Carney. Puis Carney, il a un style un peu plus soft, tu sais, un peu plus, on va jaser de ça à porte fermée, on négociera pas sur la place publique, puis, tu sais, il flatte un peu dans le sens du poil, là, Trump, on le sait. Doug Ford, lui, il est en Ontario. Puis l'Ontario, c'est la plus grosse province du Canada, c'est le moteur économique. Puis il s'est fait élire en février dernier, là, en 2025, avec le 2/3, si on veut, du nombre de sièges là, dans l'Assemblée ontarienne. Fait que là, lui, il est rempli de confiance. Là. Il a été dans l'action avant ses élections, puis il a bardassé un petit peu Trump en disant « Moi, tu vas voir, je vais défendre ma province. » Là, il est rendu à défendre sa province. Fait que qu'est-ce qu'il fait? Il achète 75 millions de pubs. Dans les télés qu'il sait que Donald Trump écoute. Là, on se comprend que c'était pas un hasard qu'il fasse ça de cette façon-là.
Non, c'était planifié. Il voulait se faire entendre.
Puis ça a fonctionné.
Puis en prenant une icône américaine, là, je veux dire, Ronald Reagan, c'était tout un homme. Là.
Oui, que Trump a cité souvent dans le passé.
Puis ça l'a insulté. Mais c'était fait exprès. Là.
Ben oui, non, c'était 100% pour aller le titiller, tu sais. Puis au début, Trump, il dit « Ah, c'était vraiment cool. » Puis là, finalement, il a pris le temps d'y penser. Puis il s'est dit « Hey, tu parles d'un cap. » Puis là, il s'est fâché. Il a cassé les négociations, 10% de tarifs. Puis là, rien ne va plus. Puis là, il y a deux volets là-dedans. Il y a ce que je te parle avec les billets puis les politiques qui veulent donc bien agir pour montrer qu'ils sont dans l'action. Puis il y a aussi le fait qu'une fédération ou une confédération comme le Canada, c'est tough à gérer en bâtisse quand tu es en haut de la tour de contrôle parce que tu as 12 premiers ministres qui veulent tout faire par eux-mêmes. Fait que là, pour le premier volet, tu sais, Doug, il faut qu'il agisse. Là. Lui, il dit, moi, je vais y montrer puis je vais agir. Puis là, boum, il fuck la négociation parce que lui, il veut être dans l'action. Puis ça, on voit ça tout le temps dans des sujets variés. Pendant la pandémie, on a vu beaucoup d'actions qui n'étaient pas nécessairement justifiées. En économie, on va aller supporter, par exemple, Nordvolt, là, qui est rendu comme une espèce de cas-école, qu'il faut absolument être dans l'action pour développer l'économie, alors que le meilleur moyen, c'est de te tasser du chemin et de la laisser aller. Tu sais. Mm-hmm. Ça, c'est vrai dans plein d'affaires. Les législations, on va faire des lois parce qu'il y a eu un cas anecdotique que c'était vraiment une circonstance particulière, mais là, faut plus jamais que ça arrive. Fait qu'il faut faire une loi, puis on restreint les libertés de tout le monde à cause de ça. Tu sais. Donc ça, ce billet-là, les politiciens sont là-dedans à tous les jours, puis il faut le reconnaître quand on écoute les nouvelles.
Penses-tu que Doug Ford essaye aussi de se positionner à l'échelle nationale? Pierre Poilievre est en difficulté présentement avec le Parti conservateur du Canada. Il n'aime pas de la façon que Mark Carney travaille. Donc, quand on parle de narcissisme, est-ce qu'il y a ça derrière la tête aussi?
Il voudrait peut-être passer du provincial au fédéral?
Ben, il y a cette rumeur-là. Moi, personnellement, j'y crois un peu moins parce que quand t'es premier ministre d'une province puis tu sacs ça de côté pour aller runner pour le pays au complet, c'est pas bon politiquement parce que là, dans le fond, t'abandonnes toute ta gang pour aller gérer le pays. T'sais. Fait que là, le message que tu dis, c'est que l'Ontario, dans le fond, je m'en sac. Moi, ce que je veux, c'est le plus haut poste. Fait que je pense pas que dans le mandat actuel.
Mais il peut avoir un prétexte en disant qu'il faut sauver le Canada, puis par l'entremise de l'Ontario, qui est la plus grosse province, faut qu'il y aille. Il est mandaté. Ce qu'il veut, c'est sauver le Canada, mais c'est surtout sauver l'Ontario. Il pourrait avoir ce prétexte-là.
Oui, effectivement.
Moi, je vois Caroline Mulroney là, qui s'en vient, là, mais ouais. Doug Ford, on le voit-tu là?
Ben, c'est pas, ça serait pas une mauvaise candidature s'il n'était pas premier ministre en ce moment. Sauf que là, tu sais, la course à la chefferie, faut que tu fasses ta course. Si, mettons que Pierre Poilievre s'en va demain matin, ils vont pas nommer quelqu'un par acclamation. Ils vont refaire une course à la chefferie qui finit tout le temps un peu à shit show.
Il va avoir dans quelques semaines, Jeff, c'est-tu au mois de janvier?
Janvier.
Pierre Poilievre va devoir avoir le vote des membres. À savoir s'il y a encore la confiance des conservateurs. Ça pourrait peut-être être là.
Ben, que lui se fasse sortir par les membres. Peut-être. Moi, personnellement, je vois pas ça pour l'instant, mais ça se peut que ça arrive. Là. Je veux dire, tout est possible en politique, mais comme je te dis, après ça, il faut que tu fasses la course à la chefferie. Fait que, mettons, tu as un poste de premier ministre de l'Ontario, puis tu dis, je démissionne de ce poste-là pour aller faire la course, puis pas nécessairement gagner, parce qu'il peut y avoir justement une Caroline Mulroney qui a un effet Trudeau d'un coup, puis bang, ça lève, puis là, ben, tu viens de laisser tomber ton poste de premier ministre pour rien.
Parce que Doug Ford est extrêmement émotif. Mark Carney, il semble pas l'être du tout. Caroline Mulroney, je la vois là, c'est une excellente communicatrice. Danielle Smith, il n'y a pas grand monde qui parle de Danielle Smith, mais c'est une femme qui est extrêmement proactive.
Ah oui, l'Alberta en ce moment, ça y va. Là. Elle aurait une belle posture pour faire ça, elle aussi, mais elle a la même position que Doug Ford, c'est-à-dire, tu as déjà un job, man. Fait que là, finis ton mandat, puis on verra après. Là. Mais oui, elle aussi, dans le fond, Doug Ford et Danielle Smith, les deux font à peu près la même chose. Ils veulent faire des side deals, mettons, avec les États-Unis, là, dans le sens que Doug n'a pas dit « je vais négocier, mais je vais mettre de la pression par moi-même », puis elle a affirmé « je vais négocier au nom de l'Alberta, tout seul ». Puis ça, c'est grave dans une confédération comme nous autres, parce que tu sais le lead de ces négociations économiques-là, c'est le fédéral qui devrait les avoir. Puis là, oui, il y a comme une doctrine que nous-mêmes, le Québec, on a développée, avec la doctrine Gérin-Lajoie, que le Québec a les leviers de négociation pour ses relations internationales. Tout ça, là, c'est vraiment de la science politique plate, mais il y a ce précédent-là que les autres provinces utilisent dans ce genre de situation-là pour dire, ben moi, je vais aller négocier pour ma province, puis fuck le pays, tu sais.
Ben justement, ce qui est surprenant dans ce qui arrive à l'heure actuelle, c'est que François Legault passe beaucoup par Mark Carney, alors que Doug Ford et Danielle Smith passent par eux-mêmes. Et historiquement, c'est le Québec qui a essayé de faire les affaires à part de la Confédération. Comment t'expliques ça? C'est-tu parce que l'Ontario est tellement frappé dans le secteur automobile que Doug Ford dit, j'ai pas le choix de démontrer de la force pour rester populaire?
Ben, tu sais, les enjeux pour le Québec sont aussi graves proportionnellement.
Oui, parce que bois d'œuvre, aluminium, c'est des gros secteurs d'activité. Là.
Mais tu sais, je pense que en ce moment, François Legault en a plein les bottines pour essayer de sauver son poste ici localement. Fait que là, aller se pogner avec Donald Trump en ce moment, c'est peut-être pas sa meilleure idée. Là. Puis je pense qu'il est pas 100% illogique dans tout ce qu'il fait. Puis là, en ce moment,
c'est bien dit.
Il y a des nuances dans ce que je dis.
J'adore.
Mais c'est ça. Fait que là, tu sais, aller se pogner avec le gros fauché de l'autre bord de la frontière, alors que toi, t'es en train de gérer sa clique, puis le dossier médical, puis la négo avec les médecins.
Puis dans une des provinces les plus pauvres, là.
Ouais, ben oui, là. Tu sais, ça va pas si bien que ça.
Stratégiquement, il est pas dans une bonne position, tandis que Danielle Smith est dans une très bonne position. D'ailleurs, quand on avait commencé à parler des tarifs et des contre-tarifs, elle avait pris l'avion, avait été voir Donald Trump. Puis quelques jours plus tard, il y avait l'investiture de Donald Trump, là, la grosse cérémonie, tout ça, elle est invitée. Là. Ouais. Elle est très, très proactive. C'est pour ça que moi, ce genre de personne-là, qui est capable de parler des dossiers, de défendre sa province à l'étranger, je trouve ça formidable. Quand c'est le temps de le faire, pas à tous les semaines, là, mais quand c'est le temps de le faire, elle l'a bien fait. Tandis que Doug Ford, c'est pas trop de quel pied il va se lever. Là. Il y a un peu plus d'instabilité là, au niveau du deuxième étage.
Ouais, puis je trouve qu'il y a une erreur stratégique parce que Donald Trump, il aime ça s'aligner avec des gens qui sont favorables à lui. Là.
Ouais.
Tu sais, dans le sens que tous les politiciens sont un peu comme ça, mais lui, c'est totalement assumé et décomplexé. Tu sais, si t'es dans ma ligne de pensée, m'as-tu supporté, puis sinon, ben t'sais, meurt. Là. Fait que là, Daniel Smith a su flairer ça, puis elle s'est rapprochée de Trump. Je peux pas dire que ça a eu un impact tant que ça pour l'instant. Mais Doug Ford, lui, il a fait complètement l'inverse. Il veut se pogner avec Trump, alors que idéologiquement, il n'est pas si loin que ça, t'sais, dans le sens que Doug Ford, c'est pas Donald Trump, mais t'sais, c'est du conservatisme, ouais. C'est du développement économique, t'sais, c'est une espèce d'identité nationale qu'il veut développer. Là.
Parce donc, que quand Stellantis a dit « on s'en va aux États-Unis », j'étais persuadé que Doug Ford allait sortir puis brûler un char. J'étais persuadé. Ouais, parce qu'il avait versé le ouais. Crown Royal, c'est
ouais,
ça,
c'est
à
ça.
Terre.
Puis ça aussi, c'est un danger. T'sais, quand tu fais des effets de touch comme ça, là, des grands sparages, quand il y a une annonce, ben, il faut que tu le fasses tout le temps. Là. Puis là, ben, les autos, c'est bien plus important que Crown Royal en Ontario.
Fait que toi, en tant que conseiller, tu aurais dit « brûle le char ».
Ben là, une fois que tu as ça comme antécédent. Vous voulez un
gaz au bout.
Ben, c'est ça.
En cas de doute, le gaz au bout.
Même brique, ça a pédale sur le neutre, là, j'attends que ça saute.
Ça se peut-tu que. Puis là, c'est dans le complot un peu. Mais que Mark Carney puis Doug Ford, dans le fond, ils se sont un peu entendus ensemble pour jouer le rôle de bon cop, bad cop.
Oh, c'est intéressant, ça. Qu'est-ce que t'en penses?
Ça se peut-tu ou Carney est vraiment fâché après Ford?
Ben, Carney a dit que c'était pas terrible comme décision là, de la part de Ford, mais mettons qu'on joue le jeu, là, ce que tu dis là, ben, stratégiquement, ça a pas eu l'effet escompté. Parce que
pas
là,
encore!
Ça a tombé sur des tarifs à 10%. Mais, tu sais, si tu joues le long game...
Tarifs à 10% qui sont pas encore rentrés en vigueur.
On sait pas quand ils vont l'être.
Puis on sait pas quand est-ce qu'ils vont l'être. Donc, c'est-tu encore du bluff? Puis je sais pas si t'as lu la chronique de Yasmine Abdel-Fadel hier, mais je trouvais ça franchement intéressant. Donald Trump, c'est... quand il regarde le Canada, là, c'est comme un gros chat qui regarde une souris, mais il a pas faim. Il s'amuse avec des petites tapes à gauche, des petites tapes à droite, des petites tapes à gauche, des petites tapes à droite. Puis là, mec, il a faim, prouh, il va manger.
Ben, oui, là, dans le sens que qu'est-ce qu'il peut faire tant que ça, là, dans le sens que là, économiquement, ça fait déjà mal. Là. Fait que, tu sais, moi, j'y crois zéro là, qu'il va envahir le Canada pour l'annexer. Là, puis là, il parle plus tant que ça du 51e État. Là, il nous a sacré patience avec ça pour l'instant.
Moi, je pense qu'il est machiavélique puis qu'il souhaite nous appauvrir le plus possible pour qu'on soit prêt à accepter à peu près n'importe quoi. Tel qui est inscrit dans son livre « The Art of the Deal » des années 80.
Oui, je comprends. Les exportations, là, hier encore, il y a des statistiques qui sortaient avec Statistique Canada. Les exportations du Canada se sont effondrées là, dans les derniers deux quarters, là, les deux trimestres. Donc, ça a quand même un effet direct, là, ce qui se passe avec Trump, là, clairement.
Écoute, mais... ça pousse Mark Carney à aller rencontrer le président chinois là, pour tenter de faire des affaires avec, alors que dans les dernières semaines, on en parlait hier avec Jeff, dans les dernières semaines, Hydro-Québec ont pogné un espion chinois qui tentait d'exploiter les technologies puis d'envoyer ça directement en Chine. Là, t'as peur, on va s'associer avec eux autres. Tu sais, les Américains, vous avez beau pas les aimer, ils nous ressemblent peut-être un peu plus que les Chinois.
Oui, mais cette diversification des marchés est nécessaire en ce moment. Puis Trump nous pousse à ça.
Tu fais rentrer des véhicules chinois ici, David?
Ben, je veux dire, il y a plein de volets dans ce cas.
Avec la technologie chinoise, avec l'informatique chinoise, avec les logiciels chinois.
Mais ironiquement, les voitures électriques chinoises sont largement en avant de tout ce qu'on a sur le marché en ce moment.
Puis le jour qu'on est en conflit, ils ont juste à peser sur un piton, merci, bonsoir, ton char part plus.
Ben, si c'est le cas, là, dans le sens que ça, on va dire que c'est des allégations non démontrées.
On ne regarde pas les mêmes films, toi et moi.
Non, c'est ça. Mais par contre, c'est pas impossible ce que tu dis là, tu sais. Puis là, la Chine domine la planète économiquement de façon sous-jacente. T'sais. Les États-Unis, pendant longtemps, ils ont dominé la planète en disant c'est moi le boss, j'ai le gilet barré, c'est l'aigle au gilet barré, là, comme un arbitre. Là, ben, c'est moi qui vais décider. Avec la Chine, c'est beaucoup plus subtil. Fait que ce que tu dis là n'est pas nécessairement dénué de sens, mais. Je ne pense pas qu'ils sont là en ce moment avec nous. Puis je pense que nous autres, on doit diversifier nos marchés d'exportation.
Écoute, ils venaient chercher les pièces d'auto ici pour les ramener là-bas, les copier, puis tenter de nous les revendre à rabais. Là.
Non, c'est des voyous. Là.
Puis là, on va aller se mettre chum avec eux autres pour de vrai. On est vraiment rendu là.
Mais il faut que tu les vendes tes shit, là. Tu comprends? On est là dans la situation. Puis oui, t'as raison.
Ma stratégie, ce serait de survivre jusqu'à temps que Trump dégage. Puis après ça, on part sur des bases.
Mais tu survis comment, tu sais? Parce qu'il faut que tu exportes tes affaires. Il faut que tu les produises. Là. Fait que là, à court terme, il faut trouver des solutions. J'aurais préféré l'Europe, mettons, mais je pense que les deux se développent en ce moment. Là. Il y a beaucoup d'énergie qui est mise en Europe pour développer ces marchés-là. Ça se fait pas en claquant des doigts, pas en tout. Là. C'est vraiment long, cette histoire-là. Mais à long terme, c'est pas une mauvaise affaire non plus parce que ça te donne un meilleur levier de négociation. Tu sais, quand tu fais du libre-échange comme la CEUM qui était avant ça. Le NAFTA, là, en français, j'oublie c'est quoi, là, mais tous les traités de libre-échange de l'Amérique du Nord, là. Mais si tu n'as pas de levier en disant, ben, sais-tu quoi, si ça ne fait pas avec toi, ça va faire ailleurs, ben, tu es tout le temps en position de faiblesse. Puis là, en ce moment, ben, on est dans cette situation de faiblesse-là qu'on a créée nous-mêmes depuis 20, 30, 40 ans. Là.
Mm-hmm.
Donc, il faut se trouver d'autres marchés.
Est-ce que Trump va arrêter vraiment de parler avec Mark Carney? Je ne lui parlerai pas avant un bon bout ou il y a quand même des négociations qui vont se faire entre les deux équipes?
Il y a toujours des back-channels, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Sauf que là, officiellement, c'est rompu. Puis là, c'est comme une position de force où il met son poing sur la table.
Mm-hmm.
C'est vrai que le 10% n'a pas été annoncé en termes de date. Par contre, juste le fait qu'il est dans l'espace public va avoir un effet sur les marchés. Les marchés réagissent aux nouvelles longtemps d'avance, en fait, avant que ce soit confirmé. Là, c'est vrai pour les taux d'intérêt aussi qui vont être annoncés demain matin avec la Banque centrale. Donc là, Carney, en ce moment, il est un peu mal pris parce qu'il dit « mais on était sur le bord d'avoir un deal. » Il a dit ça hier. Là. On était sur le bord de se serrer la main, pas tout à fait, mais on arrivait, puis là, boum, tu mets le feu là-dedans.
Mais ça fait plusieurs fois qu'il nous disait ça, là, qu'on était sur le bord d'avoir un deal. On était-tu vraiment sur le bord?
Je pense plus que c'est une stratégie pour mieux paraître que...
Probablement, effectivement, parce que là, il est mal pris. Parce que, tu sais, mon deuxième point là-dessus par rapport à ça, c'est que gérer une confédération comme le Canada, c'est pas évident. Parce
ben
que
non.
Les provinces ont des pouvoirs. Puis là, ça finit que si tu lis la Constitution puis tu regardes qui fait quoi en ce moment, c'est plus pas en toute la même réalité, tu sais. Dans le temps, la Constitution, là, on se ramène tout le temps à ça. Tu sais, c'était la poste, les voies maritimes, l'armée, puis pas mal ça. Tu sais, l'agriculture, pouvoir partager avec les provinces. Là, c'est rendu que le fédéral, ils sont dans la santé, ils sont dans l'économie, ils sont dans l'industrie.
Ouais.
Fait que là, c'est tout ce
mélange. Ils sont dans le dentaire.
Les midterms, est-ce qu'ils peuvent rendre Donald Trump moins puissant?
Ben, si c'est vraiment un message très clair que, tu sais, mettons, la vapeur est complètement renversée parce que là, il domine les deux chambres plus la présidence, là. Si c'est vraiment renversé avec les midterms, ça va changer la dynamique, clairement. Je pense pas que lui va changer comme personne, mais, tu sais, c'est tout le temps une question de levier par rapport à ce que tu peux passer au Congrès. Là, en ce moment, il y a beaucoup de décisions exécutives que c'est... On va voir avec la cour plus tard, mais en attendant, c'est exécutoire. T'sais. Il va stater quelque chose par rapport au droit de natalité, là, le fait que la résidence n'est plus reconnue si t'es né aux États-Unis. Le
droit du sol.
C'est ça, le droit du sol, merci. Normalement, c'est pas à lui de décréter ça. Là. Fait que là, c'est le genre d'affaire qu'il décrète, ça va vite, puis après ça, on va essayer de rattraper ce qu'il a fait. Si le midterm fait en sorte qu'il perd les deux chambres ou une des deux chambres, mais là, ça va ralentir un peu son pace parce que là, il y a certaines affaires que dans la procédure, ça n'a pas le choix de passer par là, puis là, ben, ça sera plus aussi fluide.
Pour les midterms, les démocrates auraient-tu intérêt à avoir deux, trois candidats déjà qui sont positionnés pour la présidentielle pour essayer de démontrer un rapport de force? Il y a Gavin Newsom, le gouverneur de la Californie, qui a dit ça me tente. Faudrait-tu qu'il y en ait deux, trois qui aient pratiquement confirmé, on y va pour 2028 pour donner un élan aux démocrates?
Ben, c'est parce que si tu fais ça, tu polarises un peu vers des personnes. Puis ces personnes-là peuvent avoir des squelettes dans le placard que tu sais pas, peuvent avoir des problèmes dans leurs états, par exemple. T'sais, Newsom, là, en ce moment, c'est un bon leader, t'sais, dans le sens qu'il prend de la place, puis lui, il est baveux, il fait des tweets comme Trump pour rire de lui. Mais si demain matin il y a un scandale en Californie, ben là tous les démocrates sont affectés par ça. Fait que là, tu sais, c'est un peu en ce moment, faut que tout le monde s'invente son scénario de rêve pour les présidentielles suivantes. Fait que là, ça peut être un peu n'importe qui, puis ça va être démocrate parce que ça va sûrement être mieux.
Ouais.
Là, ben, tu peux pas personnaliser dans le fond ce sentiment-là. Fait que ils sont mieux en ce moment de pas mettre quelqu'un comme leader, de nationalement se dire ça a pas de bon sens, faut que ça change, puis sans rester là selon moi. Là. En rester là.
Est-ce qu'il est assez riche, Gavin Newsom?
Hey, je ne sais pas.
Y a-tu, parce que c'est quelques millions de dollars, là, mais y a-tu les reins assez solides pour une campagne présidentielle? Parce que, tu sais, si on regarde Trump, milliardaire, ça va prendre quelqu'un qui est backé énormément.
Ouais. Mais ça, c'est les super PACs.
Ouais.
C'est des, pour ceux qui connaissent moins ça, là, c'est comme une espèce d'OBNL, là, d'organisme non gouvernemental à but non lucratif qui ramasse de l'argent pour supporter un candidat dans des élections. Donc, aux États-Unis, ils ont le droit de faire ça. Ici, c'est totalement illégal, là, mais... Les super PACs, c'est ça qui vont faire ou défaire un candidat. Fait que là, dans le cas des démocrates, il y a beaucoup d'argent en arrière de ça. Là. On parle tout le temps de George Soros, mais il y en a plein d'autres. Puis la twist, je pense, des démocrates, c'est qu'aux prochaines élections présidentielles, il faut qu'ils aillent rechercher les grosses poches, les tech bros, là,
ouais.
Qui sont très, très Trump en ce moment parce qu'ils sont allés vers les intérêts. Là, et clairement, ils se sont dit, c'est lui qui va passer, fait qu'on va aller se coller à lui. Mais il faut qu'ils les ramènent de leur bord parce que historiquement, c'était des démocrates, ces gens-là. Là.
La valeur nette de Gavin Newsom, on parlerait de entre 20 et 30 millions.
Ouais, c'est une trentaine de millions.
Ouais, puis de toute façon, je pense qu'il y a des grandes entreprises en Californie, puis des grands acteurs d'Hollywood qui vont s'organiser pour faire en sorte qu'il y ait l'argent pour aller combattre. Là, je suis pas mal convaincu.
Mais la twist là-dedans, c'est que peu importe c'est qui va se présenter pour du côté démocrate, faut pas que ça ait l'air patenté d'avance par le système. Parce que Trump, il s'est battu contre l'establishment, puis il a drained the swamp, puis tout ça. Parce qu'il y avait tout le temps ce sentiment-là. quand Barack Obama a gagné les deux élections, surtout la deuxième, tu sais, t'avais Beyoncé, t'avais Jay-Z, t'avais Taylor Swift. Puis là, t'avais l'impression que c'était comme, c'était une pièce de théâtre. T'sais, c'était déjà réglé d'avance. Puis là, ben, monsieur, madame, tout le monde, col bleu, qui était à Pittsburgh, puis gagne sa vie à faire du métal, là, ben, il s'est dit, attends un peu, là, moi, je veux me faire représenter par un gars qui me ressemble. Puis là, ben, Trump, évidemment, il ressemble pas à ces gens-là, mais il a joué ce rôle-là,
ça
marche.
Il a réussi à incarner ça.
Oui, c'est ça.
Je suis le gars du peuple, multimilliardaire.
Ben, c'est ça. Ça, c'est une des absurdités historiques incroyables. Ben oui. Le gars projette que c'est comme n'importe qui à New York, mais c'est un milliardaire qui fait n'importe quoi et qui se fait acheter des avions à 400 millions par le Qatar.
Incroyable. David Chabot, on se reparle la semaine prochaine. C'est toujours un plaisir de t'avoir avec nous autres, mon ami.
Yes, merci.
Bye-bye.
Salut, mon chum.
Marceau le matin. Marceau le matin.